Radio Soupente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbet, l'émission racaille qui vous cause dans le poste aujourd'hui d'un peintre du siècle d'or hollandais, complètement inconnu, on ne sait ni sa date de naissance, ni sa mort, ni où on dit plus ou moins où il vivait, parce que c'est peint sur ses panneaux de bois. Il a un nom aussi qui pouvait être confondu avec les initiales de Vermeer, et pourquoi on a souvent attribué ses œuvres à Vermeer, alors que on l'a découvert beaucoup plus tard avec les moyens techniques dont on dispose que c'était pas du tout ce schéma-là qu'il fallait adopter.
Ouais, donc c'est Jacobus Vray. Donc voilà, Paris au mois d'août, hein, dans la quiétude de ses rues désertées, un thermomètre qui ne grimpe pas dans le rouge, le temps idéal pour une exposition. Direction la Concorde, puis la traversée de la Seine, objectif la Fondation Custodia, cet hôtel particulier du 18e qui abrite depuis 1947 la collection de Fritz Lucht, l'une des plus importantes collections privées de dessins anciens, d'estampes et de lettres d'artistes, une véritable maison de l'art sur papier en France. C'est le temps suspendu dans des salles parquetées. Une exposition qui titille la curiosité énigmatique Jacobus Vray, précurseur de Vermeer. Quel est cet artiste du siècle d'or hollandais, mystérieux et insaisissable, aux initiales identiques à celles de Vermeer? Encore aujourd'hui, en dépit de recherches entreprises pour cette exposition depuis 2018, les historiens d'art ne connaissent ni sa date et lieu de naissance, ni sa date de décès. Sa vie reste secrète. On lui attribue 45 œuvres connues, 44 tableaux et un seul dessin, disséminés dans les plus grands musées et prestigieuses collections, 23 panneaux sur bois sont présentés dans cette exposition. Certaines œuvres restent encore introuvables, connues uniquement par d'anciennes reproductions photographiques en noir et blanc. En revanche, les analyses dendrochronologiques, c'est-à-dire la datation des panneaux de bois sur lesquels sont peints les tableaux, ont établi que Vray avait créé ses premières vues de ville autour de 1635 et ses scènes d'intérieur vers 1650. Cela en fait donc non pas un suiveur, mais bien un précurseur de Vermeer. Vray était généralement placé dans l'école de Delft, mais il convient désormais de l'imaginer actif dans l'est des Pays-Bas. Les historiens de l'urbanisme et de l'architecture présentent des éléments qui sont tirés de la topographie et des bâtiments de la ville de Zwolle, une charmante cité où naquit un grand peintre, Gérard Derbor, et c'est peut-être ce dernier qui fut le lien entre Vray et Vermeer, car un document atteste que Derbor et Vermeer se connaissaient. Il n'existe qu'un seul document contemporain mentionnant le peintre, et qui est quand même d'une grande importance car il nous informe que 3 tableaux de Vray se trouvaient dans une prestigieuse collection de peintures du XVIIe siècle, et il s'agit de celle de l'archiduc Léopold Willem, qui était gouverneur des Pays-Bas du Sud, c'est-à-dire l'actuelle Belgique, alors sous la tutelle de l'Espagne des Habsbourg. Lorsque s'achevèrent ses fonctions à Bruxelles, l'archiduc rentra à Vienne et y fit envoyer sa vaste collection. Et c'est là qu'un inventaire détaillé fut rédigé en 1659, où l'on trouve 2 pièces de même format à l'huile sur bois, dont l'une une cheminée hollandaise auprès de laquelle est assise une femme malade, et dans l'autre une femme qui regarde par la fenêtre. Voilà, ce sont des originaux de Jacob Vray, donc là c'est écrit Frey, et plus loin, une huile sur bois où l'on voit 2 paysans et une paysanne par Jacob Vray, donc J-A-K-O-B, FR Autréma de Zelle, et dans l'inventaire aussi, le nom du peintre fut donc orthographié de 2 manières différentes. Et on reconnaît aujourd'hui un seul de ces tableaux qui est daté, c'est en 1654, c'est une femme qui regarde à sa fenêtre. Donc Jacobus Vray semble jouer avec le regardeur, le collectionneur et l'historien d'art, mais ça il ne le sait pas, et ses signatures sont multiples. Ça peut être J. Vray. Ça peut être Vray, V-R-E-L, Vray, V-R-E-2-L, Vray, V-R-E-2-L-E-S, Vrille, V-R-I-E-L, Yann, parfois son prénom est complet, à déchiffrer sur un morceau de papier qui est à terre, Parfois, sa signature est illisible tant les couleurs du tableau sont sombres. Ce peut être ses initiales entrelacées sur une cheminée, sur une armoire, JVREL sur un poteau dans des scènes de ruelle, Jacobus Vril sur une chaire d'église. Parfois aussi, sa signature a été recouverte par celle fausse de Peter de Hoor, qui était plus connu pour une vente aux enchères. Alors voilà, comment a été découvert cet artiste énigmatique ? Ben, l'œuvre de Vrel est restée longtemps inconnue jusqu'à ce que ses peintures soient redécouvertes par hasard au XIXe siècle par le critique d'art et journaliste et collectionneur Théophile Thoré, celui-là même qui a fait sortir Vermeer de l'oubli et à qui il a consacré un article dans la Gazette des Beaux-Arts. Et Théodore Thoré possédait 4 tableaux de Vrel qu'il avait attribués à Vermeer. Il possédait aussi des Vermeer.
Et c'était un critique d'art français ?
Oui, je crois. Et donc les peintures de Jacobus se déclinent principalement entre des scènes de rue qu'il aurait commencé à peindre vers 1635 et des scènes de genre, des scènes de la vie quotidienne avec la présence donc principalement de figures féminines réalisées à partir des années 1650. Donc après on pourra passer un petit peu à décrire plus, c'est en détail un petit peu les tableaux qu'on a vus. Donc dans ces scènes de rue, bah, il est le premier peintre du siècle d'or à avoir choisi pour sujet des vues de rue et de bâtiments sans événements historiques marquants. Ces vues de rue semblent offrir plutôt une plongée dans une vie urbaine des Pays-Bas du XVIIe, mais elles ont une architecture assez inclassable, c'est-à-dire qu'on n'identifie pas en les regardant principalement de à quel endroit ça peut se situer, sauf quand on a réussi à voir avec un mur d'enceinte que c'était peut-être cette fameuse ville de Zwolle.
J'adore les noms néerlandais, c'est imprononçable. ça, pour nous, il n'y a aucune référence Zwolle. Z-W-O-2-L.
Voilà. Et donc, dans ces scènes d'intérieur, bah, celles qui sont peintes par Vrel, elles sont également difficiles à ordonner dans l'art hollandais. Ce sont des pièces qui sont vides d'objets, à l'exception justement de papier au sol qui porte sa signature, des pièces délimitées par des murs tout aussi vides, des fenêtres derrière lesquelles on peut distinguer des figures d'enfants qui émergent de l'obscurité, ou des fenêtres effectivement qui séparent même des pièces à l'intérieur. C'est pas que des fenêtres sur l'extérieur, et en fait il y a peu d'équivalents dans l'art de ce siècle-là. Donc ce sont des figures, souvent des figures féminines qui sont vues de dos, qui sont vues de profil, et pour nous aujourd'hui en fait quand on voit l'exposition, ça peut nous sembler étrange qu'on ait pu confondre la production effectivement de Vrel avec celle de Vermeer. Mais en fait aujourd'hui on a beaucoup d'images de tableaux. Et les experts et historiens d'art du XIXe siècle, en fait, ne pouvaient pas se reposer. Ils n'avaient que leur mémoire visuelle, en fait, pour travailler. Et dans le meilleur des cas, ils avaient des reproductions en noir et blanc, qui étaient souvent elles-mêmes gravées par des artistes. Donc la palette, par exemple, monochromatique d'un Vrel et celle chatoyante de Vermeer étaient rendues de façon similaire sur ces images. Donc ce qui pouvait être ridiculé, en revanche, c'était l'atmosphère, l'esprit des tableaux, et c'est en cela qu'en fait Vermeer et Vrel se rassemblent, quoi. Au point que l'on peut penser que Vermeer aurait pu être inspiré par Vrel, finalement. Et puis, on peut se demander, je ne sais pas ce que les analyses du bois, si elles analysent exactement la date où la peinture a été mise sur le bois, mais est-ce que finalement, Vermeer et Vrel ne seraient pas finalement ce même homme ?
Oui, j'ai un peu de doute quand même, parce que la grande différence que je ressens entre ces deux artistes, l'inconnu et le mieux connu, mais pas non plus très connu, Vermeer, sa peinture, Vermeer est claire et légère, et il y a quelque chose qui idéaliste presque, voilà, et c'est très lisible, la peinture de ce magnifique inconnu de Vrel, on voit pratiquement rien, quoi, c'est toujours dans une espèce de, c'est presque des camaïeux de brun, d'ocre, etc. Il n'y a pas cette lumière qu'il y a dans Vermeer, pas du tout. C'est presque le contraire, quoi. Donc, ouais. Voilà, ça, c'est. Je ne sais pas si on peut vraiment confondre les deux.
En tout cas, l'explication qu'il donne, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, non. Nous, quand on voit les deux, on ne peut pas confondre, mais qu'à l'époque, on pouvait voilà, ça, c'était pas possible.
Surtout qu'à l'époque, on l'a pas vraiment découvert, on savait un peu quand même. C'est que, suivant, on attribuait des noms à des œuvres. Comme l'a expliqué ma camarade, carrément en remettant une signature sur une signature, parce que la signature la plus récente, elle valait plus cher que la signature ancienne. Voilà, c'est quand même des choses. Moi, j'ai eu le même cas, j'ai eu des miniatures du 19e qui étaient signées derrière d'un nom d'un miniature du 19e prestigieux. Quand je les ai fait expertiser, le restaurateur spécialisé dans ces peintures m'a dit non, et il m'a expliqué le coup. C'est exactement la même chose qu'au 17e en Hollande. C'est que quand il y avait une vente aux enchères pour un héritage, pour une succession, etc., eh ben, c'était les gens qui étaient chargés de la succession pour lui donner plus de valeur, etc., mettaient un nom d'un artiste qui était à cette époque-là réputé. Voilà.
Ouais. Et justement, moi, ce que j'aime avec cet artiste, je pense qu'il a quand même. Il y a ce côté énigmatique c'est quand même surprenant qu'on n'arrive pas à trouver, à moins des registres très brûlés, mais qu'on n'ait rien sur sa date de vie, de mort, sur sa vie, des endroits où il a pu se promener. Apparemment, d'après les tableaux, il s'est baladé jusqu'en Allemagne, donc il y a quand même un espace assez important dans lequel il a bougé. Et en fait, je pense que les attributions d'œuvres d'art, en fait, risquent encore beaucoup de nous surprendre. C'est-à-dire que là, c'est dans les dernières salles de l'exposition, il y a un dessin dans lequel c'est une femme qui est vue d'eau, qui se penche par l'ouverture d'une porte à deux battants. Donc ça, c'était un motif qui était très prisé par Vrel. Mais là, en fait, ce dessin a longtemps été attribué à Rembrandt. Et cette feuille, aujourd'hui, on la donne à Nicolas Maes, donc, qui était un des brillants élèves de Rembrandt, qui lui aussi a souvent représenté des femmes dans l'intimité de leur foyer. Donc voilà, il y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Et on avait parlé pour Vermeer de ce faussaire, justement, qui, en fait, lui avait réussi à dessiner ces tableaux qu'on ne retrouvait pas. Donc là, il y a une porte ouverte aussi à des faussaires, parce qu'il y a comme 5 œuvres de Jacobus Vrel qui sont dans la nature. Donc, il suffit de se procurer, peut-être dans des greniers aux Pays-Bas, des vieilles planches, des vieilles poutres de bois de 1630, et on peut peut-être faire des faux. Quoi.
Oui, non, mais c'est ce qui est aussi, moi, qui m'amuse beaucoup, c'est que à ces époques anciennes, on n'avait aucun scrupule à tricher, à attribuer, à faire des faux, etc. Alors aujourd'hui, on pourrait sembler vraiment très honnête par rapport à ces époques, quoi, voilà, où tout était permis en quelque sorte.
Ouais. Donc voilà, ça c'est, je sais pas, il a quelque chose de très sympathique. De même, quand on voit ses signatures, il ne signe jamais pareil, il signe à des endroits complètement différents. Et si dans ce petit calepin là, merci, qui nous précise à chaque fois l'endroit où est la signature, effectivement, même en le connaissant, des fois on a même du mal à la repérer tellement la couleur est sombre.
Les fenêtres nous guettent quand notre cœur s'arrête en croisant Louisette pour lui qui brûle nos chairs. Les fenêtres rigolent quand elles voient la frivole qui offre sa corolle à un clerc de notaire. Les fenêtres sanglotent quand à l'aube falote un enterrement cahote jusqu'au vieux cimetière. Mais les fenêtres froncent leurs corniches de bronze quand elles voient les ronces envahir leur lumière. Chevelure, les pluies de la froidure qui mouillent les adieux. Les fenêtres chantonnent quand se lève l'automne, le vent qui abandonne les rues aux amoureux. Les fenêtres se taisent quand l'hiver les apaise et que la neige baisse, vient leur fermer les yeux. Mais les fenêtres jacassent quand une femme passe qui habite l'impasse où passent les messieurs. La fenêtre est un œuf quand elle est d'œil de bœuf qui attend comme un veuf au coin d'un escalier. La fenêtre bataille quand elle est soupirail d'où le soldat mitraille avant de succomber. Les fenêtres musardes quand elles sont mansardes et abritent les hardes d'un poète oublié. Mais les fenêtres gentilles se recouvrent de grilles si par malheur on crie « Vive la liberté !» Surveille l'enfant qui qui s'émerveille dans un cercle de vieilles à faire ses premiers pas. Les fenêtres sourient quand 15 ans trop jolis et 15 ans trop grandis s'offrent un premier repas. Mais les fenêtres menacent, les fenêtres grimacent quand parfois j'ai l'audace d'appeler un chat un chat. Les fenêtres me suivent, me poursuivent jusqu'à ce que peur s'en suive tout au fond de mes draps. Les fenêtres souvent traitent impunément de voyous des enfants qui cherchent qui aimer. Les fenêtres souvent soupçonnent ces manants qui dorment sur les bancs et parlent l'étranger. Les fenêtres souvent se ferment en riant, se ferment en criant quand on y va chanter. Ah, je n'ose pas penser, elles servent à voiler plus qu'à laisser entrer la lumière de l'été. Non, je préfère penser qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer. Non, je préfère penser qu'une fenêtre fermée, ça ne sert qu'à aider les amants à s'aimer.
Voilà, c'était les fenêtres.